vois tout ça marche. Bon, pour beaucoup de gens, le christianisme est trop facile, trop simple. Il suffit de confesser Christ et voilà, toute une vie de péché est effacée sans conséquence. Aux yeux du monde, la soi-disant foi en Christ sert de camouflage pour les péchés de l'Église. Si Dieu a fait tout pour notre salut, il suffit de dire « je crois en Jésus » pour qu'on puisse continuer de vivre comme on veut, sans égard pour Dieu. Beaucoup de gens pensent que les chrétiens s'appuient sur la grâce de Dieu afin de pouvoir vivre sans conséquence comme des non-croyants. Malheureusement, ceux qui voient le christianisme comme ça n'ont pas toujours tort, n'est-ce pas? Une mauvaise compréhension de la doctrine de la grâce risque en effet de produire des gens qui parlent de la foi sans vivre par la foi. Par cette méprise sur la grâce, on se retrouve à dissimuler bien facilement notre perdition sous une couverture de foi morte. On se sert de la foi pour déguiser notre mondanité de la même manière qu'on se sert de vêtements et de maquillage pour couvrir nos caractéristiques inesthétiques, n'est-ce pas? Comme le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer l'a dit, la foi des chrétiens ressemble souvent au pardon sans repentance, au baptême sans communauté, à la Sainte Cène sans confession des péchés. C'est la grâce sans être disciple, c'est la grâce sans la croix, c'est la grâce sans le Christ vivant. Et en fait, la suite de l'épître de Jacques soulève ce problème-là. La foi sans la foi. La foi sans la foi. La foi extérieure qui cache l'incrédulité intérieure. On va lire donc Jacques, chapitre 2, versets 14 à 26. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur soit nu ou sans nu et manque de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » sans leur donner de ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit de ce qui dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Je vous invite à la prière avant d'aller plus loin. Notre Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est inspirée de ton Saint-Esprit. Seigneur, je prie afin que tu nous aides ce soir de comprendre ce texte et de mettre en pratique ta parole pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si cette lecture vous a mis mal à l'aise. Moi, oui, honnêtement. En tant que protestant, attaché aux doctrines de la réforme, comme la belle doctrine de la justification par la foi, ce texte ne semble pas très bien à mes oreilles. En lisant le reste du Nouveau Testament, nous savons que nous sommes justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Et donc, quand Jacques nous suggère au verset 14 que la foi sans les œuvres ne sauve pas, je me demande d'où vient ce babillage étrange. Et ce n'est pas juste le verset 14. Vous avez sûrement remarqué, il a mentionné ça plusieurs fois dans le texte, au verset 21, verset 22, verset 24 et encore verset 25. Jacques nous dit que les œuvres sont nécessaires pour le salut, pour la justification. Mais si on creuse un peu plus profondément le texte, je pense qu'on comprendra mieux ce que Jacques veut nous faire comprendre par ces mots. Jacques est provocateur, n'oubliez pas ça. Il est un peu provocateur dans son discours. Et il nous donne des choses à méditer ici dans ce texte. Pour mieux comprendre le discours de Jacques, je vous propose de commencer par une définition de la foi selon Jacques. En fait, la foi est difficile à définir en général, parce qu'on ne la voit pas, parce qu'on ne peut pas la mesurer. Dans un autre passage, un passage célèbre, Hébreux chapitre 11, verset 1, ce texte-là définit la foi comme étant l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pas mal ça. C'est une définition très utile. Mais Jacques, chapitre 2, va plus loin encore, en parlant de comment la foi se démontre d'une manière plus visible dans la vie des croyants. Notre définition de la foi dépend largement, dans ce texte, de notre définition des œuvres. Ensemble, les mots « foi » et « œuvre » sont employés une bonne vingtaine de fois dans ces quelques versets. En grec, le mot « ergon », qui se traduit par « œuvre » en français, est souvent utilisé pour signifier une activité, une action, une œuvre ou un projet. Mais il y a aussi un sens d'obéissance ou de vocation qui accompagne ce mot. Et c'est ce sens de vocation qui qualifie et qui définit le mot foi, pistis en grec, dans ce texte. S'il n'y a pas d'activité, s'il n'y a pas de vocation qui accompagne la foi, alors il n'y a pas de foi, selon Jacques. La foi est définie par Jacques plutôt comme une vocation qui dépend de la confiance en Dieu, qui accomplit quelque chose dans la vie des croyants, qui aboutit à un but déterminé. Et donc quand Jacques dit « à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres ?» c'est comme s'il disait « à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas la vraie foi ?» Vous voyez ? Selon Jacques, il ne suffit pas de dire « je crois ». La foi n'est pas simplement des mots. La foi est une confiance en Dieu qui agit. Imaginez qu'un ami de l'Église a besoin d'un logement temporaire. Imaginez qu'un frère traverse des épreuves financières. Imaginez peut-être même quelque chose de plus simple que ça. Imaginez qu'un ami de l'Église a besoin d'aide pour déménager. Ou qu'un jeune couple a besoin de quelqu'un pour garder leurs enfants, pour qu'ils puissent profiter d'une soirée tout seul. On peut imaginer toutes sortes de situations qui pourraient arriver, qui arrivent déjà à cette assemblée, à cette église. On pourrait facilement dire à nos frères et sœurs, « Je suis vraiment désolé pour votre situation difficile. Je vais prier pour que le Seigneur vous bénisse. Bon courage, allez en paix. » Alors, je veux être clair qu'un mot d'encouragement et les prières, c'est des bonnes choses. On est d'accord, n'est-ce pas? Mais une vraie confiance en Dieu est marquée par une vraie sincérité qui agit, si possible. Quand on dit « allez en paix », nos mots peuvent se traduire facilement comme cela. « Je vais vous encourager en parole et je vais prier pour vous afin de vous donner l'impression que je suis un bon frère en Christ. » même si je me désintéresse totalement de votre souffrance, de votre difficulté. Quand on dit « allez en paix », nos mots peuvent se traduire facilement comme ceci. Je n'ai ni le temps, ni le désir de faire les efforts nécessaires pour me rendre à votre service. La foi, sans une vie marquée par une confiance dans le Seigneur, qui agit, une fois comme ça, est morte. Et donc, pour résumer, selon Jacques, la foi est une vocation, c'est une manière de vivre. La foi, quand elle est vidée de la vocation d'être un fidèle serviteur de Christ, une foi comme ça est morte. La foi authentique en Christ exige des actions qui rendent honneur à Christ. Elle s'exprime par des actions. Jacques illustre cette idée par deux exemples tirés du récit biblique, deux exemples très intéressants en fait. D'un côté, on a Abraham. On a Abraham, le patriarche du peuple de Dieu, le père de tous ceux qui croient. Mais de l'autre côté, on a Rahab, une prostituée issue d'un peuple païen. De tous les personnages bibliques, Jacques a choisi de parler de deux personnes complètement opposées dans leur caractère, dans leur statut social. Un patriarche d'un côté et une prostituée de l'autre côté. Mais malgré leurs différences, ce sont deux personnes qui ont démontré leur confiance en Dieu par leur obéissance. Dans le cas d'Abraham, il a quitté son pays sur la base de la promesse de Dieu. En Genèse chapitre 2, on pourrait lire cette histoire-là. Plus tard, il était prêt à sacrifier son propre fils sur la promesse, la base de la promesse de Dieu. Dans le cas de Rahab, elle a montré sa foi en Dieu en cachant les espions que Josué avait envoyés parmi les Cananiens. Josué chapitre 2 raconte comment Rahab, par la foi, aidait les Israélites dans leur conquête du pays. Ce texte montre que la foi agit. La foi agit. Jacques nous rappelle que la grâce, sans être disciple, ce n'est pas une possibilité. Une déclaration verbale de la foi ne sert à rien si le cœur n'est pas bien disposé. L'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Une activité qui me plaît beaucoup dans la vie, c'est de pêcher des poissons. J'aime beaucoup ça. Donc j'utilise la pêche comme une illustration pour cette prédication. Nicolas va l'apprécier aussi, il est pêcheur aussi comme moi. Imaginez que quelqu'un prétende être un grand pêcheur sérieux, mais ce gars n'a pas de canne à pêche, il n'a pas de boîte d'accessoires, il n'a pas d'appât, il n'a pas d'hameçon, de leurre, de flotteur, de fil, de tresse, de plomb, il n'a rien. D'accord? Il n'a jamais pratiqué la pêche. De plus, il n'a aucune intention d'aller faire la pêche. Il ne connaît pas les différentes espèces de poissons dans les ruisseaux locaux, mais il prétend être un grand pêcheur parce qu'il vient d'obtenir une carte pour pêcher. Avec son permis dans les mains, il pense être pêcheur. Et de la même manière, Jacques craint que l'Église fasse pareil. Il voit les gens qui se disent chrétiens parce qu'ils croient en Jésus, mais qui n'ont aucune intention d'abandonner leur vie de rébellion contre le Seigneur. Il voit les gens qui se disent chrétiens, mais qui n'utilisent pas leurs dons dans le service de l'Église. Il voit les gens qui se disent chrétiens, mais qui ne s'intéressent ni à la prière, ni à l'étude de la Bible. Jacques pense ici à ceux qui connaissent la Bible, peut-être. Ils ont lu la Bible une fois, qui ont mémorisé peut-être quelques versets, qui a une croyance intellectuelle en Jésus. Et alors, les démons font pareil, n'est-ce pas? Les démons croient en Jésus. Ils savent que Jésus est Seigneur. Ils connaissent la Bible. Mais les démons ont un bon point, selon Jacques, si j'ose dire. Eux, ils répondent à Jésus. Ils répondent à Jésus. Au moins, la parole provoque une réponse chez les démons. Selon Jacques, ils croient et ils tremblent devant le Seigneur. Ils croient et ils tremblent. C'est mieux que ce que font beaucoup de chrétiens qui croient intellectuellement et ensuite ignorent complètement leur Seigneur. Je voudrais prendre un moment aussi pour creuser un peu plus cette idée de la justification par les œuvres dans ce texte. Je vous rappelle que la Bible a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Les apôtres ont enseigné un seul évangile, on est d'accord sur ça. Et donc, quand l'apôtre Jacques parle de la justification par les œuvres, il ne contredit pas l'enseignement de Paul ou de Jean ou d'autres apôtres. En revanche, il offre de la clarification, de la perspective et du recul afin d'approfondir nos réflexions sur la doctrine de la foi. L'apôtre Paul estime, par exemple, il estime que nous sommes justifiés par la foi. On voit ça partout dans le Nouveau Testament. Jacques ajoute ensuite que l'absence d'œuvre révèle l'absence de justification, de vraie justification. Et donc je pense que Jacques emploie le mot « justification » ici d'une manière adaptée. Au lieu de parler de la justification qui sauve, Jacques parle de la justification comme preuve de notre salut. C'est juste une autre manière de voir des choses. Autrement dit, le fait de prétendre être disciple de Jésus ne nous sauve pas. En revanche, être un disciple de Jésus nous sauve. Le fait de prétendre être appelé par Dieu ne nous sauve pas. Par contre, être appelé par Dieu nous sauve. Comme je l'ai dit, la foi est liée à la vocation dans ce texte. Et cette vocation consiste à se confier en Dieu, étant convaincu qu'il va faire tout ce qu'il promet à faire, de faire, et ensuite à vivre une vie qui soit cohérente avec cette confiance en Dieu. La foi et les œuvres constituent un don de la grâce de Dieu. Sans la grâce, il n'y a pas de foi. Sans la foi, il n'y a pas d'œuvre, des œuvres. C'est dans ce contexte que Jacques comprend la justification par les œuvres. Le salut est à nous par la grâce de Dieu. Mais la vie chrétienne se vit dans une relation réciproque avec notre Seigneur, où nous répondons chaque jour à l'invitation qui nous fait de le connaître. Il faut imaginer la grâce de Dieu comme un cadeau. Mais elle est plus que ça, la grâce est le cadeau. Mais la grâce est aussi la capacité des hommes d'étendre le bras et de saisir le cadeau. La grâce nous permet de déballer le cadeau et de l'utiliser selon le dessein pour lequel il a été conçu. Si nous ne voyons pas le salut par la grâce de Dieu dans ce texte, alors nous nous trompons tout simplement sur l'intention de Jacques, chapitre 2. La grâce est là, la foi est là. Alors, que faire aujourd'hui avec ce texte difficile? Jacques chapitre 2, versets 14 à 26, nous présente une exhortation et un défi. L'exhortation de Jacques prend presque la forme d'un reproche. En tant que pasteur de l'église à Jérusalem, Jacques avertit son assemblée contre la foi morte. Il les supplie en disant: comment osez-vous venir à l'église le dimanche, affirmer être chrétien, prendre la Sainte Cène, parler comme quelqu'un de spirituel et de pieux, tout en vivant la semaine sans penser à Dieu, sans prier, sans annoncer Christ, sans obéir à ses commandements, sans aimer votre prochain et sans vous repentir? Comment osez-vous parler de votre foi quand votre foi est morte? Comment osez-vous mentir à Dieu et à son Église en emballant votre incrédulité dans le joli papier glacé de votre foi prétendue? Jacques nous exhorte à identifier nos tendances hypocrites et à les corriger immédiatement. Jacques, comme tous les bons pasteurs, veut nous rendre mal à l'aise par rapport à notre péché et à notre laisser-aller spirituel. Il ne veut pas nous manipuler par la peur, c'est pas ça l'idée, ou de nous contraindre sous la menace de l'enfer. En revanche, je pense qu'il veut que son Église vérifie et contrôle leurs présupposés sur le fonctionnement de la foi chrétienne. Jacques sait que l'enfer sera rempli de gens qui confessent le Dieu trinitaire intellectuellement, qui croient à la divinité de Jésus intellectuellement, qui reconnaissent les bonnes doctrines, mais qui sont perdus parce qu'ils refusent de se repentir et de marcher dans la foi en Jésus le Christ. Et donc, c'est ça l'exhortation. Mais le défi que Jacques nous présente, c'est de réfléchir à comment notre foi se manifeste dans notre quotidien. Le défi est de nous poser la question de savoir si notre vie est centrée sur Christ. Le défi est de demander à Dieu la grâce de vivre dans la cohérence avec la foi en Christ que nous confessons et de servir notre Seigneur en servant nos frères. Si on veut souhaiter à notre frère bon courage ou aller en paix ou tout ça, il faut qu'on soit prêt à l'aider aussi dans son besoin. Si on veut professer foi en Christ, il faut qu'on soit prêt à donner notre vie pour cela. La foi n'est pas une parole prononcée, mais une vocation à vivre. Je vous invite à la prière. Seigneur, encore une fois, nous te remercions pour ce texte. Un texte difficile à comprendre, mais un texte qui nous édifie. Je prie, Seigneur, afin que tu nous aides à mettre en pratique ces paroles, d'avoir une foi authentique qui agit. Aide-nous, Seigneur, de marcher avec Jésus chaque jour. Au nom de Jésus. Amen.